Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Il est 6h30 tout pile. Vous avez choisi RMC en ce week-end et vous faites bien. C'est le week-end des experts, c'est le jardin. Comme chaque samedi, Patrick Mulan nous accompagne et répond à vos questions au 32-16. Dans quelques instants, on va parler des abeilles et l'importance, tout simplement, de planter de jolies fleurs pour que les abeilles puissent venir butiner. Ce sera notre sujet, notre dossier de ce samedi. Mais auparavant, Patrick est avec nous au 32-16.
Oui, hello, bonjour.
Bonjour, monsieur Patrick.
Bien, bonjour à vous, merci bonjour, d'avoir pris mon appel.
Et on vous écoute. Enfin, un autre Patrick vous écoute.
Eh bien, très bien. Mais disons que j'ai deux questions éventuellement à vous poser. Concernant, première question, c'est concernant, y aurait-il un remède miracle, entre guillemets, et pérenne, de pérenne, une solution pérenne afin de désherber des allées ou cours pavés ou bitumés, sans détruire, bien sûr, le support. Mais pour, parce que bon, en ayant essayé des produits actuellement sur le marché, il s'avère que c'est très compliqué.
Bah oui, vous avez raison, mais voyez, s'il y avait des solutions miracles, ça se saurait. Il y avait des produits qui existaient, qui donnaient de très très bons résultats. Alors si vous avez un truc qui est possible sur les allées, bon, moi je vous le conseille avec beaucoup de guillemets, je vous le dis juste parce qu'on est entre nous, que personne nous écoute. Vous pouvez très très bien saler votre allée.
Ah bon ? Le sel ?
C'est ce que je pensais.
Le sel, le chlorure de sodium, est extrêmement nuisible pour la plupart de la végétation. Pas tout, hein, parce que vous avez des plantes qui poussent, oui, en bord de mer. Mais enfin, je pense que si vous êtes dans le Loiret, j'ai vu Patrick, donc la mer est un peu éloignée, donc il y a peu de plantes qui sont
habituées, on va
dire. Des plantes halophiles, comme on dit, des plantes qui aiment les sols salés, on les appelle des plantes halophiles. Et comment ?
Très bien, j'avais déjà essayé, c'est vrai que ça peut être efficace, mais par contre, une deuxième, enfin la question qui est importante également, peut-être sous couvert des produits qu'on trouve actuellement sur le marché, et bien quelle est l'utilité dans la mesure où ce qu'on trouve actuellement, la seule chose qui est réelle, c'est que l'efficacité est prouvée au bout de 3 heures, c'est-à-dire que les plantes se dessèchent, et au bout de la première goutte de pluie, tout redevient vert ensuite, et avec des produits qui sont pas anodins non plus pour la nature, ce qui fait que finalement le litre de produit qu'on met pour une surface réduite, eh bien surtout dans la nature malgré tout, même si c'est un produit qu'on trouve du l'acide pélargonium là, qui est naturel, mais qui n'est pas si innocent que ça quand même finalement.
Non mais attendez, je suis totalement d'accord avec vous, simplement il faut quand même préciser une chose. À partir du moment où l'on veut un effet, quel qu'il soit, que ce soit un effet insecticide, fongicide, raticide, herbicide, il faut bien que le produit, il ait une action. On peut pas simplement imaginer que avec la pluie, on va arriver à faire ce que l'on cherche à faire. Donc, on est parti dès le départ sur des dés pipés parce que on a regardé simplement le danger potentiel de certains produits. Pour se dire, il faut virer tout ça parce que ça peut être dangereux. Mais on a oublié ce qu'on voulait faire avec. Donc, à partir du moment où vous posez pas les bonnes questions, vous avez forcément les mauvaises réponses. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Au début de l'émission, on a parlé avec Louisa d'un problème de fongicide. On a quasiment plus rien pour soigner nos plantes aujourd'hui. Vous me parlez d'un problème d'herbicide et on a, encore une fois, quasiment rien. Alors, est-ce que les herbicides actuels autorisés ont une efficacité? La réponse est oui, avec des guillemets, à savoir que vous avez cité l'acide pélargonique, et il y a aussi l'acide acétique. C'est pas le vinaigre, c'est le composant du vinaigre qui est homologué. Ce sont des produits qui brûlent simplement la végétation par contact. Mais quand vous avez affaire à des végétaux vivaces, avec par exemple des chardons, des liserons, des choses comme ça, qui ont des racines profondes, bah, la végétation, elle est détruite en surface, et puis après, ça redémarre.
Ouais.
On finit par les avoir, en traitant et en traitant et en traitant, ce qui n'est évidemment, comme vous l'avez souligné fort justement, pas une bonne chose, parce que vous concentrez dans le sol des produits qui, encore une fois, ne sont pas totalement innocents. Mmh. Bah, ils sont pas nocifs. ils sont nocifs, oui, parce qu'ils ont cette action-là. Après, ils se dégradent. Alors, c'est ça aussi qu'il faut voir. Mais le fameux Roundup qu'on a éliminé avec le glyphosate était un produit qui se dégradait très bien. Mais tout d'un coup, on a fait une fixation là-dessus. Je rappelle quand même à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent que le glyphosate n'avait jamais été classé sur le plan toxicologique. Mais c'est essentiellement des décisions politiques, tout ça. Et malheureusement, donc, à part ce que je vous ai dit précédemment, mais qui est un peu avec des guillemets parce que c'est pas autorisé en réalité, et puis quand même vous avez un risque sur le sol, bon bah vous pouvez essayer ça.
Patrick, merci pour votre appel. 6h35, allez, on prend un petit peu d'altitude. Les abeilles, nos amis les abeilles. Il faut savoir que du 13 au 21 juin, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, c'est la 4e édition de la Semaine des fleurs pour les abeilles. Et on va en parler parce que cette opération est là pour sensibiliser le grand public à l'importance des plantes mellifères pour la santé, la survie des pollinisateurs et donc forcément des abeilles, Patrick.
Tout à fait, c'est organisé à la fois par l'interprofession horticole Valor et par l'Observatoire français d'apidologie, plus des partenaires, de manière à ce que on sollicite l'ensemble des gens qui jardinent à occuper un petit bout de leur terrain avec des fleurs mellifères, parce que il faut le savoir que les fleurs mellifères, c'est pas simplement pour polliniser. La pollinisation n'est que la conséquence de la nécessité pour les abeilles de se nourrir. Lorsqu'elles vont sur des fleurs, c'est parce qu'elles cherchent le nectar et le pollen qui les nourrissent. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une pénurie alimentaire dans les populations d'abeilles.
Alors, donc une semaine exceptionnelle, on l'a vu. Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine des fleurs pour les abeilles?
Alors, le fait que ce soit l'interprofession de l'horticulture qui organise cela, c'est qu'il y a une sensibilisation de l'ensemble des composantes de la profession, que ce soit donc les horticulteurs, les semenciers et surtout les distributeurs, les jardineries, qui vont développer des rayons de plantes mellifères, qui vont mettre à disposition du public aussi des conseillers qui ont été spécialement formés pour expliquer tout l'intérêt de la pollinisation. Il y a aussi des opérations qui sont faites en partenariat avec les apiculteurs. Il y a des miels, il y a 100 000 pots de miel français. Il faut savoir que nous consommons en France environ 40 000 tonnes de miel, mais on n'en produit que 20 000. Donc l'idée aujourd'hui, on est revenu un petit peu à ça, il faut produire dans son propre pays, et le fait d'acheter du miel à nos apiculteurs, ben, ça va les aider à continuer à faire leur superbe métier. Et il y a donc des petits sachets de fleurs qui sont à vendre, qui s'appellent des milliards de fleurs pour les abeilles, parce qu'il faut savoir une chose. Essayez d'imaginer combien de fleurs les abeilles doivent butiner pour vous fabriquer un kilo de miel.
Ça doit être monstrueux.
C'est monstrueux.
Ouais.
C'est 5 millions de fleurs.
5 millions pour un kilo de miel.
5 millions de fleurs.
Vous vous rendez compte?
Donc vous imaginez qu'on a besoin d'augmenter énormément la population florale dans ce pays. Pourquoi? Parce que, étant un pays très agricole avec une structure agricole plus industrielle aujourd'hui, il faut produire, on est de plus en plus nombreux sur Terre, donc il faut alimenter tout le monde. Eh bien, les champs se sont débarrassés de ce qu'on appelait les plantes messicoles, les coquelicots, les bleuets, les niels, toutes ces plantes-là qui attirent les abeilles,
ont disparu. C'est le paradis des abeilles, oui, c'est ça.
Avec aussi la circulation routière qui est de plus en plus importante, on a occuper un maximum de terrain pour les routes. Donc les bas-côtés maintenant ne sont plus ensemencés par des fleurs sauvages. Et les abeilles, eh bien, elles meurent de faim.
Alors, en quoi considère-t-on en fait que les abeilles sont des alliés de la biodiversité, Patrick ?
Eh bien, du fait de cette activité de pollinisateur. C'est-à-dire qu'une abeille, notamment une abeille domestique par exemple, butine pas une seule fleur, elle butine des quantités de fleurs. Et il faut savoir qu'en France, on a quand même presque 1000 espèces, en dehors de l'abeille domestique, 1000 espèces d'abeilles sauvages, qui parfois, elles, sont inféodées plus ou moins à certaines plantes. Et donc, elles vont travailler, elles vont permettre tout simplement la production des fruits et des légumes que l'on consomme. On estime que pratiquement 80% des végétaux que l'on consomme sont liés à la pollinisation par les abeilles.
Comment ça fonctionne une colonie d'abeilles, tiens?
Ah, ça c'est très très drôle. Vous pouvez imaginer globalement qu'une colonie d'abeilles, c'est un organisme ou une... Oui, une sorte de ville, de pays qui serait avec 50 000 sujets dirigés par une reine. Une reine dont le seul rôle essentiel, c'est de reproduire, de pondre et de pondre et de pondre. Donc au départ, au début de sa vie, la reine des abeilles s'envole, suivie par des dizaines, des centaines de faux bourdons, donc de mâles, qui vont la féconder. En général, elle s'accouple une quinzaine de fois au cours d'un seul vol.
Ah oui.
Et puis, elle va avoir suffisamment emmagasiné de semences mâles dans ce qu'on appelle sa spermothèque, c'est-à-dire une sorte de réservoir, qui vont lui permettre de pondre pendant environ 5 ans de l'ordre de 2000 œufs par jour. Donc elle renouvelle en permanence sa colonie. Pourquoi ? Parce que les ouvrières, les simples abeilles de base, ça vit que 30 jours environ. Donc il faut en permanence que la colonie soit renouvelée. Alors il faut savoir une chose qui est extraordinaire, c'est que une abeille ordinaire, lorsqu'elle naît, elle va faire des tâches au fur et à mesure de son évolution. Alors elle commence par être nettoyeuse, après elle devient nourrice, après elle bâtit les alvéoles, après elle est magasinière, c'est-à-dire qu'elle va mettre le miel à l'intérieur, elle ventile la ruche, elle devient gardienne, et puis finalement, simplement butineuse. Ce sont les plus vieilles abeilles qui butinent, et elles butinent jusqu'à leur mort.
Tiens. Pourquoi dit-on qu'il y a un déclin des abeilles un peu partout ?
Alors, il est évident que l'agriculture intensive et l'emploi de pesticides a considérablement joué là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les dérèglements climatiques, il y a ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire le changement simplement du paysage, le manque de fleurs,
oui, bien sûr,
l'urbanisation à outrance, et puis... sans aucun doute, le dérèglement climatique. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque le printemps est trop précoce, eh bien les fleurs s'épanouissent à un moment où les abeilles ne sont pas forcément réveillées. Elles ne sont pas forcément en phase. Elles ont un rythme, elles ont un cycle. On appelle ça un rythme circadien. Ben, si elles ne sont pas réveillées au moment où les fleurs sont épanouies, eh bien elles ne butinent pas. Et donc ça aussi, on peut s'inquiéter par rapport à cela. Et puis il y a les frelons asiatiques,
oui,
y a varroa,
bien sûr, les frelons asiatiques qui sont terribles. Hein. Il y a des documentaires sur les attaques des frelons sur les abeilles, c'est hallucinant. Oui. Est-ce qu'on doit réintégrer les abeilles en ville, Patrick ?
Alors c'est déjà fait. Vous savez qu'à Paris, il y a à peu près 2000 ruches. On n'imagine pas 2000 ruches dans la ville de Paris. Mais on se rend compte que ça commence à être trop. Parce que vous me disiez tout à l'heure, au début, avant qu'on ouvre les micros, que vous avez vu chez vous une petite abeille solitaire.
Tout à fait.
Eh bien, non,
qui fait un trou dans un pot et qui stocke en fait des petites fleurs.
Elles vivent dans des cavités, elles ne font pas de miel, elles ne piquent pas, mais elles sont ultra importantes pour la pollinisation. Et ces abeilles naturelles, sauvages, elles sont... un peu en concurrence avec nos abeilles domestiques. Et quand on a trop d'abeilles domestiques, avec, en revanche, une population de fleurs relativement faible, notamment en ville, eh bien, les abeilles domestiques prennent le pas sur les sauvages, et l'efficacité, eh bien, décroît.
C'est compliqué, hein, cet équilibre.
Équilibre biologique, tout à fait.
6h43, on revient dans un instant avec Patricia, qui a une question, justement, sur les abeilles, ou plutôt un témoignage. N'hésitez pas, hein, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, et puis toujours cette piscine que je vous offre, sans abeilles à l'intérieur, hein, bien sûr. C'est juste pour vous. Cette piscine, donc, Summer Waves, de 4 mètres sur 2, je vous l'offre par SMS avec le mot jardin. Vous nous envoyez jardin au 7-32-16, et vous participerez au tirage au sort. À tout de suite avec Patricia, et puis on retrouvera la météo du jardinier. C'est RMC.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, on termine notre sujet sur les abeilles, puisque nous vivons cette semaine des abeilles, où on les célèbre en quelque sorte, avec ces petites graines que vous nous présentiez tout à l'heure, que l'on peut retrouver un peu partout, Patrick.
Oui,
et qu'on sème, pour faire plaisir aux abeilles.
Le petit sachet, ça vous fait 6 mètres carrés de fleurs pour les abeilles.
C'est sympa. Patricia est avec nous au 32-16.
Oui, bonjour.
Bonjour Patricia.
Bonjour Patricia.
Bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
On vous écoute.
De vous avoir. Voilà. Alors moi je vous explique vite fait. En fait, moi ce qui me fait bondir, c'est de voir les paysagistes qui sont soi-disant des professionnels de tout ce qui est végétal et ainsi de suite, enfin végétaux comme on veut, raser les pelouses au moment du printemps. En fait, partout où je suis passée, moi j'habite à Lyon, hein, je pense que ça se passe partout en France, c'est qu'ils rasent, à partir du printemps, ils rasent les pelouses, les talus, partout où on voit des fleurs, donc des coquelicots, enfin toutes ces plantes mellifères qui attirent les abeilles et qui en fait qui sortent un peu d'hibernation, si je me trompe pas, et qui ont besoin de tout ça, et c'est rasé de partout. Moi je me suis opposée aux jardiniers qui interviennent dans mon quartier. Je me suis mis devant la tondeuse, hein, j'ai pas cherché à comprendre parce que je leur ai dit, mais vous, c'est le monde qui tourne à l'envers. Je fais, on nous dit de protéger les abeilles, il faut de la pollinisation, on a besoin de fibres de sang, et vous rasez. Je vais vous appeler, est-ce que vous avez fait simplement l'école du paysagisme, quoi? Parce que même moi qui suis, nous on a des jardins partagés, j'apprends à jardiner en ce moment et c'est vraiment extraordinaire, mais c'est la première chose que j'ai appris, c'est les plantes mellifères pour que les abeilles, les faux bourdons, tous ces animaux, ces insectes qui nous aident à ça,
Oui, ma chère Patricia.
On rase en fait leur alimentation, quoi.
Vous avez raison que partiellement, hein, parce que une pelouse, ce n'est strictement pas fait avec des plantes mellifères. Par définition, une pelouse, c'est un ensemble de graminées, et les graminées, si on les laissait, égrenées, ça a aucun intérêt ou pas beaucoup pour les abeilles. En revanche, où vous avez raison, c'est sur les talus où là vous avez de la flore spontanée, de la flore sauvage qui peut pousser. Mais une pelouse, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt pour les abeilles, hormis éventuellement pour les osmies, les petites abeilles solitaires qui peuvent venir faire leur nid en creusant à l'intérieur. Mais c'est pareil, le passage de la tondeuse, ça va pas les gêner particulièrement. Donc il faut faire attention à ce que l'on voit ou à ce que l'on dit, parce que c'est pas aussi simple que ça. Donc le fait effectivement de pouvoir réensemencer des endroits dans la ville avec des fleurs mellifères, ça c'est une bonne idée. Les pelouses, c'est un autre sujet.
Merci Patricia pour votre appel, en tout cas.
Merci pour votre réponse.
Eh ben merci à vous. Patrick, on enchaîne, 7h10, on fait un point sur la météo du jardinier. Qu'est-ce que nous promettent les cartes de Météo France pour les jours qui viennent?
Globalement, c'est ce que Guillaume Gomis nous a dit pour aujourd'hui, ça va pas beaucoup bouger. On est sur des flux doux, hein, les vents sont assez faibles, plutôt sud-sud-ouest, ouest. Donc c'est une température moyenne, avec de temps en temps des averses et de temps en temps des éclaircies. Donc voilà, c'est le genre de météo facile à dire. Il y a un peu de tout qui va se passer.
Alors c'est un temps instable, mais est-ce que c'est bon pour le jardin, ce temps-là?
Alors oui, parce qu'il n'y a pas de fortes chaleurs qui sont du tout...
Vous disiez tout à l'heure, votre jardin, là, en ce moment, est magnifique.
Alors nous, le jardin est magnifique. Je me disais, il faut que j'arrose, parce qu'on avait eu quelques jours où il n'avait pas plu, puis c'est arrivé. Magnifique, parce que il est évident que l'eau de pluie est toujours préférable à l'eau des villes pour arroser votre jardin, puis ça coûte beaucoup moins cher.
Est-ce que ça arrose aussi bien?
La pluie?
Ouais.
Mais bien mieux.
Oui, mais enfin, un arbre, par exemple, la pluie va ruisseler, est-ce qu'elle va...
Ah oui, mais il y a tellement de quantité d'eau. Quand il pleut, vous savez, on va dire, il va pleuvoir, allez, 15-20 mm. C'est quoi, 15-20 mm?
C'est beaucoup.
C'est 15 à 20 litres par mètre carré.
Oui.
Vous, avec votre petit tuyau d'arrosage, vous êtes très loin de ça. Vous savez, vous allez faire un truc pour vous rendre compte. Vous prenez votre tuyau d'arrosage avec votre pistolet habituel, puis vous prenez un gros arrosoir et vous le remplissez. Et vous comptez combien de temps vous mettez?
C'est monstrueux.
Pour faire 10
litres. Bien sûr.
Donc, ça veut dire que sur chaque mètre carré, il faudrait que vous preniez le temps de remplir ce tuyau, cet arrosoir. Non. La pluie est bien plus efficace.
C'est intéressant ce que vous dites. Quand il pleut beaucoup, ce n'est pas la peine d'arroser les jours qui suivent.
Ah ben là, en ce moment, avec la température qui fait, on dépasse guère 20 degrés dans la plupart des régions. Là, vous en avez au moins pour la moitié de la semaine. Et si on reste vraiment sur cette atmosphère un peu humide, parce que ça compte aussi, l'air.
Bien sûr.
Je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'arroser pendant la semaine.
D'accord.
Donc on va avoir ce temps-là. Qui n'est pas un grand temps pour le jardinage lui-même, ça va être un peu compliqué parce que plus on va avancer dans la semaine et plus les pluies risquent d'être assez importantes. Il y a guère à peu près que la région marseillaise, où il y aura la région d'Avignon,
où
ça sera plus sec, mais partout ailleurs il y aura de l'eau au moins une fois dans la semaine. Donc profitez-en parce que votre jardin va en profiter. Par exemple, il y a un truc qui est extraordinaire, les pelouses. elles étaient jaunes parce qu'il y avait eu au moins une semaine où il n'y avait pas eu d'eau. Une pluie. Elles sont vertes le lendemain.
Et voilà, c'est ça qui est top.
Donc ça vous montre vraiment l'efficacité de la pluie et on en a besoin et tant mieux, ça marche.
Parfait, oui. Comme ça, on évite les déficits hydriques pour cet été. Hein.
Pour l'instant, oui. Alors, voilà. Nous sommes encore qu'au printemps.
Oui.
L'été arrive dans une semaine, on va dire le 20, 21.